Je vais vous présenter le livre « De la démocratie en Amérique » d'Alexis de Tocqueville, et plus précisément la partie 3 du livre 2. Pour vous donner une idée, il y a deux livres, et le livre 2 il est découpé en quatre parties. Donc je vais vous présenter le personnage de Tocqueville pour vous introduire à son œuvre. Alors Tocqueville, c'est une famille noble avec des aïeux prestigieux, comme Saint-Louis, et Alexis donc naît en 1805 sous Napoléon, et il assiste ainsi en fait à tous les changements de régime du début du 19e, jusqu'à entrer lui-même dans la vie politique et juridique sous la monarchie de Juillet, vie politique qu'il continue sous la Seconde République et dont il est forcé de se retirer sous le Second Empire. Comme il est noble, il a un certain recul face à la démocratie nouvelle, et tout en étant pour la liberté individuelle et l'égalité, il prône un conservatisme pour se prémunir en quelque sorte des dangereuses dérives de la démocratie, ce qu'il va expliquer dans son livre. Donc après avoir passé plusieurs voyages aux États-Unis en Amérique, ce qui lui a permis d'expérimenter, de se documenter et d'apprendre plus sur la démocratie et ses applications, il entame la rédaction de son livre. Donc, De la démocratie en Amérique, ça se présente comme une enquête, comme un reportage presque philosophique, qui assimile point par point, chapitre par chapitre, de nouvelles notions, tout en progressant en fait plus profondément dans sa recherche. Et c'est une recherche politique et sociale, et je dis sociale parce qu'il montre bien comment les lois, la constitution et surtout l'histoire d'un pays façonnent les rapports collectifs au sein de ce pays, mais aussi les rapports individuels, c'est-à-dire d'individu à individu, et Tocqueville explique toujours un phénomène politique à partir d'un exemple récurrent d'une situation entre individus dans un pays. Il explique l'individuel par le collectif et la société. Et ça peut sembler subjectif et assez précis par certains exemples que je vais vous donner, mais quand on le lit, on s'aperçoit que c'est assez prémonitoire et que sa théorie, elle est toujours d'actualité. Tocqueville, donc, il différencie l'ancien régime et la monarchie du nouveau régime et la démocratie. Il les différencie par la présence ou l'absence de caste dans les lois et les constitutions. C'est-à-dire que les paysans, les bourgeois, n'ont pas les mêmes droits que les ecclésiastiques, qui n'ont pas les mêmes que les nobles. Ça, c'est sous l'Ancien Régime. Ni les mêmes devoirs, d'ailleurs. Et il montre bien comment tout rapport humain est absent entre les castes, il n'y a pas de compassion. Et pour exemple, il donne une lettre de Madame de Sévigné, qui décrit avec beaucoup de cruauté et d'inhumanité le massacre des paysans révoltés qu'elle a vu, sans aucune compassion. Alors qu'il explique bien que Madame de Sévigné, comme on sait, c'est un personnage très humain, et très touché lorsqu'il s'agit de ses enfants ou de ses amis. C'est pas une personne qui manque d'humanité. Mais donc il y a cette différence avec la démocratie, c'est cette absence de caste, non seulement juridiquement, mais moralement et socialement. C'est-à-dire que la présence de caste juridiquement influe sur les mœurs. Et donc de là, il va différencier trois types d'États et de sociétés, avec pour exemple l'Amérique, qui est fondée sur des bases démocratiques, qui est l'État donc parfaitement démocratique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'antécédent aristocratique. Tout dans l'Amérique concorde à la démocratie parfaite. Et l'idée de caste, elle est absolument absente. Tandis que, ensuite, il donne pour exemple l'Angleterre, comme État monarchique et aristocratique, où les castes, elles sont bien définies, elles sont inscrites dans la loi, et personne ne cherche à évoluer, chacun reste dans sa caste. Et enfin, le troisième exemple, et le troisième type de société, c'est la France, qui est démocratique dans les lois, mais qui est en fait est restée aristocratique, en quelque sorte, dans les mœurs. Chacun est égal aux yeux de la loi, et chacun est égal aux autres face à la loi, mais l'idée de caste, elle perdure, et donc il y a une sorte de combat infini, de révolution qui est restée entre les individus pour monter dans les castes et ne pas descendre de la sienne, et empêcher les autres de monter. Enfin, la France, c'est la démocratie avec l'idée de caste qui perdure. Et c'est là le couac. Et donc, ce sont ces trois types de sociétés qui vont modifier les rapports entre les hommes. D'inconnu à inconnu, de maître à serviteur, de père à fils, d'américain à européen, l'éducation des filles, la place de la femme dans la société et dans la famille. Tout ça, ça part de cette idée de caste et de la construction de la démocratie et de l'aristocratie. Donc tout d'abord, Tocqueville il va différencier l'interaction, c'est-à-dire la rencontre entre deux Anglais inconnus l'un à l'autre, et l'interaction entre deux Américains. Les Anglais, ils vont être très froids et distants entre eux, parce qu'ils sont sans cesse hantés par l'idée de manquer aux politesses dues à d'une caste à une autre. C'est-à-dire ils ont soit peur de pas assez respecter une caste supérieure, soit peur de donner trop d'importance à une caste inférieure. Tandis que les Américains, comme ils sont tous égaux face à la loi depuis la fondation de l'Amérique, et donc aussi dans leurs mœurs et dans leurs idées, ils sont plus ouverts et plus chaleureux quand ils se rencontrent. Il y a une situation de connivence, ils sont à égalité, d'entraide, d'obligation aussi les uns les autres. Ils n'ont pas cette idée de supériorité. Tout le monde est égal. Ils peuvent être très riches et très pauvres, ils auront les mêmes droits, et ça, c'est ancré dans leur mœurs. Et ça, c'est donc la différence entre l'ancien et le nouveau régime. C'est cette présence de caste, encore une fois. Mais dans les rapports de maître et serviteur, il y a une grande différence, encore une fois, entre la situation en Angleterre, en Amérique et en France. Et là, il va faire la différence entre les trois pays. Et c'est assez intéressant, il explique que le lien de domesticité est très serré en Angleterre. Le maître et le serviteur, ils ont un lien très fort et en même temps très autoritaire. Puisqu'en fait, il est toujours inscrit dans la durée. La famille aristocrate, elle aura toujours pour serviteur la famille de son domestique. C'est presque inscrit dans l'infini, ça ne se terminera jamais. Il explique que c'est comme deux lignes parallèles qui sont toujours à côté sans jamais se croiser. Le serviteur va jamais supplanter son maître. Ils sont toujours ensemble. Et c'est fait de telle sorte que le serviteur devient presque une excroissance du caractère du maître. Donc il y a un lien très fort et très autoritaire en Angleterre, qui est une aristocratie. Ensuite, tandis qu'en France, en fait, le lien, il est très lâche, comme il explique. C'est le pays où le lien est le plus lâche entre le maître et le serviteur. Et le maître s'excuse presque toujours de commander. C'est parce qu'en fait, maintenant, les serviteurs et les maîtres, ils sont égaux face à la loi. Et donc le serviteur, il peut aussi, et il veut appartenir à la caste des riches. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il va pouvoir progresser, puisque l'idée de caste est restée. Et comme il y a une idée aussi d'égalité face à la loi, il y a une possibilité de progresser. Tandis qu'en Angleterre, les castes, elles ont été bien définies, comme je l'ai dit. Et donc il y a un rapport de révolution et de combat permanent entre le maître et son serviteur qui est resté. C'est-à-dire que le serviteur veut monter dans la caste de son maître, et le maître essaye de l'en empêcher aussi. C'est ce qu'il dit, c'est l'état de révolution. Et enfin, donc, il y a l'Amérique qui se situe en fait entre les deux, puisque ni le maître ni le serviteur ne cherchent à supplanter l'autre. Et le serviteur, il se soumet totalement au maître, mais pour la durée définie par le contrat. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans une perspective infinie. Il sait que sa servitude, en quelque sorte, elle a une fin, elle a un début et une fin. Il sait qu'il est l'égal de son maître. Il va le servir parfaitement, et le maître sera totalement maître, contrairement à la France où le maître s'excuse de commander. Le maître sera totalement maître pendant la durée du contrat. Et c'est pour ça qu'il se situe entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a une finitude à cet état de servitude, mais en même temps, le service qui est rendu est parfait. Ils savent qu'en dehors du contrat, ils seront à nouveau égaux, et donc le serviteur sert au mieux son maître pendant la durée du contrat, sans être en état de révolution. Et enfin, il explique l'absence totale de susceptibilité des Américains sur leur pays, sur leur sol, et comment cette susceptibilité est exacerbée à l'étranger. Et en effet, comme l'idée de caste, elle est absolument inexistante, l'étiquette, les manières, elles-mêmes, elles sont très souples, et quasi inexistantes, elles aussi, en Amérique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas des politesses et plus de respect à quelqu'un d'autre. On est égal. Donc l'Américain, il se sentira jamais dans l'obligation de rendre des soins, ni dans le besoin de recevoir, en fait. Et il se pique, il ne se fâche de rien. Tandis que, quand il arrive dans la vieille Europe, il se rend compte, d'abord, que son pays n'a pas le rayonnement qu'il lui donnait, il n'est pas le centre de toutes les conversations, mais il se rend compte surtout de la présence des castes, qu'il ignorait jusqu'alors, et il devient... Il commence à avoir un comportement aristocratique presque exagéré, bien plus puissant que les Européens. Parce que, comme il n'y est pas habitué, et il désire appartenir à la caste des supérieurs, et être vu comme tel, il va prêter encore plus attention, puisqu'il ne connaît pas, au moindre sous-entendu ou au moindre manquement à l'étiquette, et va s'en fâcher avec exagération. Ça, c'est quand il n'est pas sur son sol. Alors qu'en Amérique, justement, il était presque impossible de le fâcher sans devenir son pire ennemi. Ensuite, Tocqueville, il va expliquer aussi l'évolution des rapports dans la famille, pour le père, les filles, la femme, les rapports entre travailleurs, il y entrevoit même l'esclavagisation des ouvriers par les entrepreneurs. Donc c'est quand même assez prémonitoire. Il a une réelle vision de ce que va devenir la démocratie à la moitié du 19e siècle. C'est très intéressant. Donc c'est un livre très clairvoyant et prémonitoire, comme je disais, qui met en lumière et en mots des sujets, des impressions en fait, qu'on peut ressentir au quotidien aujourd'hui, sans y réfléchir plus que ça. Donc c'est pour ça que c'est très stimulant et intéressant. Voilà, merci. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire.